tous les soirs sur Ado.
Bob dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
Bob vous dit toute la vérité.
Il y a un peu plus d'un mois, j'ai eu le plaisir de recevoir ici même les protagonistes d'un film incroyable intitulé La Révélation des Pyramides. Depuis, vous avez été des centaines de milliers à le voir aux quatre coins de la planète, et notamment en France. Vous avez été des milliers à me demander quand nous pourrions voir la suite. À toutes les questions que vous posez, moi je ne peux rien faire d'autre que de demander à ces mêmes protagonistes d'y répondre. Mesdames et messieurs, pour la deuxième fois, ce soir, dans Bob vous dit toute la vérité, l'auteur du film Jacques Grimaud et son réalisateur Patrice Poyard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Ah, mais tu vois, le micro sachement bien.
Jacques. Une récente.
Si tu peux le bouger, tu peux le mettre devant toi.
Moi, être homme préhistorique.
Alors, si j'ai eu envie de vous inviter, c'est que c'est vrai que depuis que vous êtes passé, il y a eu deux choses incroyables. Déjà, l'interview a été podcastée des milliers de fois. Votre premier passage, c'était quand même assez sympa de se dire qu'il y avait un vrai engouement sur ce sujet, sur ces révélations des pyramides, sur cette révélation, enfin sur ces révélations d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, vous m'avez dit de votre côté que vous, c'était parti en flash également, qu'il y avait un vrai bug qui s'était passé.
Ah ouais, c'est extraordinaire parce que en fait, beaucoup de gens se sont intéressés au sujet. Beaucoup de gens, ce qui nous plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de discernement de la part des internautes qui regardent le film, qui entendent des critiques, qui sont des critiques, et la plupart du temps, c'est des opinions qui sont formulées, c'est-à-dire le film vaut pas un clou, ça sert à rien de le regarder, ouais, etc. Ouais. Et puis en fait, eux, ils répondent et ils interrogent les faits, ils parlent des faits, et en général, les gens qui essayent de critiquer le film ne vont jamais sur les faits. Ils vont toujours sur « mais non, c'est rien, ça sert à rien de regarder, si tu regardes ça, c'est un crétin ». Alors ce qu'on a remarqué, c'est que sur les forums de jeux vidéo, alors ça c'est assez extraordinaire parce que c'est des forums qui sont destinés à des 15-25 la plupart du temps, et il y a des tas de gens qui traînent et qui viennent, et il y a une espèce de petit groupe qui, chaque fois que quelqu'un vient poster le film ou parler de quelque chose, lui tombe dessus en lui disant « mais tu vas pas croire ça », ils se mettent à 3 ou 4, et en fait les gamins leur tiennent tête. Quand je dis les gamins, je vais pas
par rapport à
mon grand âge avancé, et ils leur tiennent tête, et alors les gens se dévoilent petit à petit. On a découvert que derrière ces pseudonymes avec des âges qui étaient 23 ans, 24 ans, en fait se cachaient des gens qui travaillaient au CNRS.
Qui
disent qu'ils travaillent au CNRS. Donc on a essayé de les contacter, on a essayé de discuter avec eux, d'ouvrir le débat et de leur proposer de démonter le film, de prendre point par point les faits, les arguments.
Sauf qu'ils veulent pas.
Et jamais ils sont venus.
Ils ne sont pas à la hauteur parce qu'ils ne connaissent pour la plupart du temps, ils ne connaissent pas les faits eux-mêmes. Ils ne savent pas lire un film documentaire. Et je pense que ce sont les jeux vidéo dans lesquels ils excellent qui sont leur domaine, pas le film. J'en profite pour dire à ces braves gens que j'estime pour autant, parce que ça nous a permis de nous améliorer dans notre dialectique, notre rhétorique, etc., que s'ils me cherchent, ils me trouvent, c'est-à-dire que s'ils prennent ça à la rigolade, sur le ton de l'ironie, je réponds pareil, et généralement, c'est que j'ai sorti la scie circulaire, ou mieux que cela, et que, bon, on se laissera pas faire. La vérité a des droits. Voilà, il faut s'en souvenir et je serai toujours là. Et Patrice apparemment a tenu le coup parce qu'il y a des moments où c'est difficile.
Et Patrice le disait très justement, c'est-à-dire que on est pareil ici, c'est-à-dire que dès qu'on aborde des sujets, alors le paranormal c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on est, il y a toujours ceux qui disent c'est de la merde, j'y crois pas, etc. Sans véritablement fouiller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi c'est ce que je fais tous les soirs. J'essaie d'apporter des faits. Alors après, j'expose et j'en dispose. Mais au moins aller jusqu'au bout et laisser les gens exposer les faits, parce que c'est ça qui est important quand même.
Alors
place aux faits. Les questions des auditeurs. Je vous ai demandé de revenir parce que on voulait transférer au fur et à mesure les questions. Beaucoup de gens ont réagi bien sûr sur votre film et beaucoup de gens se sont posé des questions. Et première question. Alors dans le reportage, Jacques, si tu le veux bien, il n'est pas fait mention de l'eau qui pouvait entourer le site de Gizeh. Ça c'est exactement ce qu'on t'a envoyé. Pourtant des traces d'érosion importantes ont été relevées sur le Sphinx et vous en faites pas de mention dans le reportage. La question, c'est à ce sujet, avez-vous trouvé des éléments de ce côté-là?
Alors, il faut répondre de manière beaucoup plus périphérique et générale d'abord. Dans un premier temps, nous n'avons pas pu prendre la problématique complète et historique, technologique littéralement, de ce sujet. On a exposé l'ensemble de l'introduction bien plus vaste qui n'est qu'accessoirement égyptologique. Pour revenir à cette question, il y a eu de l'eau, mais c'est surtout l'eau du Nil. Je rappelle qu'à l'époque de Homère, 9e siècle avant notre ère, déjà il était question pour les grandes montagnes de Memphis, c'est-à-dire comme ça qu'on appelait en grec les grandes pyramides, le fait qu'elles étaient au bord de l'eau. Mmh. Et donc, entre le moment où elles étaient au bord de l'eau et le moment où le delta s'est constitué, il y a au moins 10 à 12 000 ans. Donc mmh. là, il y a déjà un problème. On ne l'a pas soulevé, on l'abordera cependant, mmh. puisque la résolution du problème de l'ancienneté se trouve aussi là-dedans. Mmh. Alors, les choses aussi à considérer, c'est que comme c'est un calcaire parisien, d'ailleurs, mmh. c'est-à-dire formé pour l'essentiel de numulite, eh bien, il faut considérer qu'il est normal qu'il y ait des traces aquatiques. Maintenant, c'est au travail, c'est ça, c'est une forme de travail qu'il incombe de faire à des gens spécialisés, des mm-hmm. gens qui savent reconnaître différentes catégories d'individus marins, numulitiques, mm-hmm. et tout ça. Donc on confie ça à des gens de métier.
D'accord.
Là, ça sera beaucoup plus difficile d'attaquer. Et mm-hmm. c'est pour cette raison que vous ne trouvez pas tout abordé en vrac. Mm-hmm. On a gardé des espaces pour les spécialistes. On les questionnera là-dessus voilà. dans les prochains opus.
Parce que, voilà. bien sûr, l'idée, là, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous allez très vite faire un deuxième film? Est-ce qu'il va y avoir un troisième? Il y a combien dans votre tête, combien d'étages, sept films, donc il y a six autres films qui devraient arriver.
Exact. Oui.
D'accord. Et alors, vous avez déjà les axes de ces films?
Non, oui. Il y a la matière entière. Le prochain, je l'ai déjà écrite. Mmh. Et Patrice vous dira à quel point je suis extrêmement prudent. C'est-à-dire que je n'écris pas tout. Je garde cela en moi-même. Je l'ai fait pendant quasiment 42 ans. Mmh. Je sais comment faire pour garder. J'ai même eu un accident cérébral vasculaire mmh. important qui ne m'a pourtant pas enlevé ce que j'avais appris avant la période qui m'était bon. C'est pour dire qu'on peut être accidenté et récupérer pas trop mal. Et en fait, j'ai écrit le prochain opus et j'en passerai les éléments au fur et à mesure à Patrice qui ne saura rien. Il se questionnera comme tout un chacun pour savoir si c'est vrai, si c'est faux, est-ce qu'on peut accorder crédit à cette affirmation et tout ça, voilà.
Oui, parce que ça, c'est une chose qui est importante. Moi, je vais pas, et c'est le travail que j'ai fait avec Jacques sur ce film-là, j'ai pas reçu les choses et j'ai traduit ça en un film. Et j'ai vérifié. Et chaque fois, et ça a donné souvent lieu à des débats houleux, c'est-à-dire que chaque fait, moi, j'ai besoin de le vérifier,
Déjà, rien que pour ta crédibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es aussi le réalisateur du film, tu peux pas faire n'importe quoi, donc t'as eu besoin.
Non, mais on peut aussi être réalisateur et s'en détacher, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai pas écrit le scénario, voilà, je suis une commande, je réalise ça. Puis
je suis
après,
technicien,
je
là, pour le coup, presque.
Or, moi, je fonctionne pas comme ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est que j'avais une connaissance très limitée du dossier au départ de cette enquête, et donc il a fallu que je me documente. Et c'est en fait ce qu'on essaye on incite les gens à faire la même chose, c'est-à-dire à pas recevoir tous les éléments comme ça et à les prendre pour argent comptant, mais aller les vérifier. Et d'ailleurs, on va saluer au passage quelqu'un qui s'appelle Sébastien L'Ermite, qui est un professeur de mathématiques.
Et de sciences.
Et de sciences, et qui a été interpellé par ses élèves sur le film. Mmh. Il a regardé le film et il a fait un travail de vérification énorme qu'on trouve sur le net en cherchant, en allant sur notre page, on a mis des liens, mais sinon on peut chercher. Et il a fait ce travail de vérification de manière extrêmement rigoureuse, mais en même temps, quand il a fait ça, il n'adhérait pas nécessairement au contenu du film et à ses conclusions, mais il a voulu faire le travail de vérification mathématique. Il a fait un travail énorme, c'est-à-dire que pour les alignements de sites, par exemple, il a refait tous les calculs à la main. Il n'est pas parti dans Google Earth avec les coordonnées, etc. Ouais, il a refait tous les calculs d'alignement, etc. Et il publie tout ça. Il publie tout ça sur son site, et c'est formidable comme travail. Et c'est ce qu'on attend des gens qui peuvent le faire, de faire ça.
Je rappelle aussi juste deux secondes, Jacques, avant que tu interviennes. Je voulais simplement dire également que, bon, tous les deux, vous êtes dans la recherche de la vérité et que la version française est celle qu'il faut regarder parce qu'il y a eu une traduction quand même anglo-saxonne qui n'est pas la bonne. Hein.
Ça n'est même pas une traduction, c'est un nouveau texte.
Un détournement, presque.
Un détournement qui a amené comme conclusion à ce film pourtant de qualité. La conclusion était celle-ci, à savoir, ça vous démontre, ce film vous démontre que le 21-12-2012, tout le monde passera à la casserole, c'est écrit, et voilà, ils ont démontré cela.
Alors ça, que c'est pas du tout le but.
C'est une escroquerie, ça. Voilà. Alors nous, on n'a certainement jamais cautionné ce genre de dérive. Mm-hmm. On peut parler comme Jean-Pierre Adam, on ne supportera pas une telle dérive.
Et Jean-Pierre Adam du CNRS. Hein.
Exactement, architecte et égyptologue de qualité, un homme qui a des convictions, qui sait les défendre avec beaucoup d'entre gens, un homme que j'aime bien personnellement, au moins on a quelqu'un en face qui bat. bataille, et bataille ferme, on rit beaucoup. Ouais. Donc, pour revenir à cette lamentable escroquerie, ouais. Je ne sais pas qui est responsable là-dedans, mais... En tant qu'auteur, je vais le chercher et je pense qu'il va passer un mauvais moment.
Voilà, c'est pour ça, regardez donc la version française 1h48, c'est celle-ci en tout cas.
Alors, je rappelle encore une fois que nous, on ne peut pas cautionner cette diffusion. Maintenant, ce serait hypocrite de notre part de dire qu'on n'est pas au courant et de ne pas répondre aux gens parce qu'on a fait ce film pour qu'il soit vu. C'est pas nous qui l'avons mis en ligne, on ne serait pas permis de faire une telle chose parce qu'il y a des investisseurs dedans, il y a des gens qui ont mis de l'argent et qui attendent un retour. Et effectivement, le fait que le film se soit retrouvé en ligne comme ça, ça parasite les recettes, et donc ça, c'est pas une bonne chose. La gestion des sorties a été très mal faite, parce que en fait, quand on sort un film en DVD, à partir du moment où on l'a sorti en DVD, dès le lendemain il se retrouve sur Internet.
Bien sûr.
Donc normalement on doit écluser toutes les diffusions en salle, toutes les diffusions possibles, et ensuite en dernier recours, on sort le DVD, ouais. On essaye d'harmoniser les pays. Or, on a perdu le contrôle de la société à ce moment-là, donc on n'a pas pu gérer ces choses-là, et résultat, le film s'est retrouvé en version anglaise depuis l'été dernier, 2011, août 2011. Cette version anglaise a commencé à tourner. Mais si vous faites un tour maintenant sur les forums, vous allez vous rendre compte que des gens qui sont parfaitement bilingues la critiquent.
Ouais.
On a fait ce travail-là parce que nous on a pris un expert pour valider les comparaisons entre les deux versions. Il y a des choses qui sont évidentes et il y a des choses qu'il fallait préciser. Donc on perd à peu près 50% des informations dans la version anglaise. Il y a des tas de choses qui passent à la trappe et qui sont des informations importantes. Mais il y a surtout un retournement du film. C'est-à-dire que j'ai été extrêmement prudent quand j'ai présenté l'hypothèse du calendrier astronomique. J'ai essayé d'être honnête, de rester honnête jusqu'au bout. Et quand on est arrivé à cette hypothèse-là, j'ai dit, voilà, maintenant, on sort du terrain des faits et on va rentrer dans quelque chose de plus glissant que sont les hypothèses, et on va vous présenter une hypothèse. Et à la fin du film, je dis... cette hypothèse-là, elle tient la route. Ce serait bien de travailler dessus pour essayer de la confirmer ou de l'infirmer.
D'où l'idée des autres films.
Exactement, l'idée des autres films, et puis l'idée aussi de prendre à partie les gens et puis de leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà une projection qu'on peut faire à partir de ce qu'on a trouvé. Et voilà une chose du travail de Jacques qui est l'introduction, c'est-à-dire c'est un message, un langage mathématique géométrique. C'est une manière de parler particulière. Qu'on essaye de communiquer et ce film là à ce titre là c'est une catastrophe, ouais. parce que vraiment ça nous fait passer pour des porteurs de vérité, etc.
Vous la cherchez. Alors on revient vers vous dans un instant, la révélation des pyramides ce soir au cœur de notre soirée jusqu'à minuit. Jacques Grimaud, Patrice Pouillard, auteur et réalisateur respectivement de ce film incroyable. Vos questions, on y revient dans un instant. Il y aura une question qui n'est autre que celle-ci. Connaissez-vous l'auteur Anton Parks et ses théories sur la Grande Pyramide? Elles sont les suivantes. La Grande Pyramide aurait été construite par les anciens dieux égyptiens et notamment par Thoth et Isis avant de faire revenir l'âme d'Osiris en la réincarnant en son fils Horus. On parlera de tout ça dans un instant. C'est la question que je vous poserai, et notamment à Jacques qui a déjà voulu répondre. Donc, on y revient dans un instant.
Moi, non, rien. Moi, je dormais.
C'est, oui, bien sûr. C'est à nous, c'était ta vérité.
Je précise que si je parlais fort, c'est parce que le son était très fort dans mon micro, c'est pas parce que j'avais envie d'hurler à les oreilles des auditeurs.
Vas-y, il est en pleine forme ce soir.
Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Avec le cabinet Myriam. Cabinetmyriamvoyance.fr.
Peut-être arrivez-vous pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Vous allez m'entendre dire ici ce que personne ose penser tout bas. Eh oui, c'est toute la vérité sur les phénomènes paranormaux, sur les complots d'État, les sociétés secrètes, mais aussi sur ces pyramides. Un film incroyable, La Révélation des Pyramides. Ce soir, Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, ils ont travaillé tous les deux respectivement sur ce film. L'un l'a écrit pendant 40 ans, l'autre l'a réalisé pendant des années également. Donc, question, donc je l'ai posée juste avant, je vais la reposer pour ceux qui viendraient d'arriver. Connaissez-vous donc l'auteur Anton Parks et ses théories sur la Grande Pyramide? D'après lui, en tout cas d'après ses théories, la Grande Pyramide aurait été construite par les anciens dieux égyptiens et notamment par Thoth et Isis afin de faire revenir l'âme d'Osiris en la réincarnant en son fils Horus.
Alors deux choses. D'abord, le film de Patrice Pouillard et Jacques Grimaud n'est pas un film fondé sur des constatations égyptologiques, ni même relatives à des dieux ici ou là. Nous, on fonctionne sur des faits. Anton Parks, bien sûr, que c'est un homme de qualité à connaître, très travailleur, sérieux, etc. Cependant, c'est une théorie et j'attends qu'il veuille bien la... posé comme une démonstration, chose ouais. qu'on ose faire nous dans le film.
Ouais.
Voilà. Et avant qu'il ait fait ce travail, que je ne peux pas faire moi, et parce que je l'intègre différemment dans les prochains opus, eh bien je lui dis bon courage, parce que là, il va être dans une situation pire que la nôtre.
Oui, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens, on en avait parlé la première fois, qui ont beaucoup de théories, mais qui au nom de la vie professionnelle et de la leur et de leur confort n'osent pas en fait les annoncer, ces théories hein.
Ben, ce sont des théories, elles restent des théories jusqu'à démonstration, et nous on s'est payé le luxe de prétendre apporter des démonstrations, mais avec une forme en quelque sorte dispersée, mmh. c'est-à-dire on arrive avec des choses qui sont indigestes, mmh. on en a donné un maximum, mais évidemment si je donnais le tout en un seul opus, mmh. là je pense que les yeux sortiraient des orbites, les dents tomberaient des mâchoires, la langue se dessécherait, le cœur ne battrait plus, on aurait quand même, voilà, parce que c'est énormément de choses découvertes. Si c'était seulement en matière d'égyptologie de grandes pyramides, ça ne prendrait qu'un film. Mmh. En revanche, là, c'est une entrée en matière, et simplement cela, c'est l'introduction. Mmh. Comme si on vous disait, ah, il y a un match de foot demain, mmh. pas plus.
Alors, il y a quand même une question que tout le monde se pose. Hein, donc, vous savez qui a construit les pyramides, Jacques ? Patrice ? Tu le sais ou pas ?
Je ne parle qu'en présence de mon
non.
avocat.
Non, mais juste, oui ou non ? Après, tout le monde se...
Non. Lui ne sait pas, moi,
toi, tu le sais.
Moi, je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas.
Et t'as même pas, tu l'as même pas sur le bûcher. Tu n'as pas mis de le mettre la tête sur le bio.
J'ai même pas posé les questions, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer au fur et à mesure. D'abord, il a fallu que je digère des tas de choses, parce que, comme je le répète, moi, c'est départ arrêté. C'est-à-dire qu'au début, il y avait quelque chose de formidable dans la construction de ces pyramides, mais il n'y avait rien dans mon esprit qui remettait en question tout ce que j'avais pu apprendre. Donc il m'a fallu déjà beaucoup de temps, et je ne pouvais pas faire ce film si j'étais pas convaincu moi-même. Et bon, ce gros travail préparatoire, comme je l'ai dit la dernière fois, m'a pris 6 ans. Et je veux continuer comme ça, c'est-à-dire que je veux continuer avec cette fraîcheur. Je me pose énormément de questions, parce que ce film soulève plus de questions, pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et ce que je veux, c'est continuer à y aller step by step et garder ça, parce que c'est ce qui me permet de rester proche du public.
C'est encore avoir, oui, ce regard un peu naïf. En tout cas, je découvre des choses et je suis pas perverti.
Un regard innocent, je préfère un naïf.
Oui,
mais oui, effectivement, c'est ça.
C'est ça.
Et j'ai pas envie de. On peut faire toutes sortes de projections.
Ouais.
J'ai pas envie d'aller là-dedans. J'ai envie d'avancer tranquillement. J'ai envie d'avancer step by step, en apportant, en regardant les faits. Un fait amène sur un autre fait, qui amène sur un autre fait. Moi, je suis convaincu déjà que ça s'est pas exactement, en tout cas dans la construction de la pyramide, ça s'est pas passé comme on nous l'a dit.
Ouais,
pas,
ça c'est sûr.
Pas dans sa réalisation. Ouais. La réalisation, elle est. Alors il y a des gens qui disent on serait pas capable de la refaire aujourd'hui. Moi je pense que si on s'y mettait et qu'on
avec des moyens colossaux,
voilà.
Beaucoup d'argent.
On la ferait pas de la même manière. C'est pareil, on en a parlé, on la ferait en béton, enfin on ferait des choses différentes, et puis on ferait un parking à l'intérieur pour amortir la surface.
Ouais.
Mais la chose, c'est que ce qui m'a séduit moi vraiment là-dedans, c'est ce que je passe rapidement dans le film, parce que c'est des mathématiques et c'est pas sexy, c'est la démonstration mathématique, parce que ça c'est une démonstration.
Et ça c'est le terrain de jeu de Jacques.
Hein, exactement. Rien aux maths, alors c'est sexy les maths.
Ouais. Alors c'est sexy pour certains, c'est vrai. Une équation
95, ça peut faire, c'est voilà. Sexy.
Ah dis donc, si c'est le c'est le tour de hanche.
C'est
la cuisse, l'autre c'est pareil.
Il y a une frénésie intellectuelle des scientifiques qui sont capables de parler pendant des mathématiciens qui sont capable de parler. C'est vrai que les mathématiques, quand on les comprend, c'est brillant.
Ouais.
Mais en même temps, c'est comme si on nous dégoûtait des mathématiques à l'école, parce que la manière dont on les apprend, ça donne pas envie.
Ouais.
Mais c'est des mathématiques qui sont formulées très artistiquement.
Bien sûr.
Ça qui est assez extraordinaire.
Ouais. Et puis on comprend. C'est-à-dire que c'est quand même assez... C'est se mettre à la portée aussi du spectateur, qui lui n'a pas forcément fait de maths. Ce que vous démontrez dans le film, quand même, tous les deux, c'est que, voilà, les maths ont une part hyper importante dans la construction des pyramides. Tout en nous disant que les mecs n'étaient pas censés les connaître quand même ces matins,
oui,
voilà,
oui.
Avec des objets qui sont ridicules pour les faire, et ils sont arrivés à construire quelque chose qui a traversé le temps. C'est une question qui n'était pas prévue, mais je vais te la poser quand même. C'est pourquoi avoir construit des monuments qui peuvent traverser le temps?
C'est justement là l'intérêt du film.
Ouais.
C'est de dire ils ont été constitués conçus, réalisés, justement pour leur capacité à traverser le temps et à questionner quelque intelligence que ce soit. Il n'y a pas besoin d'un autre langage que celui des proportions géométriques, des formes, etc. C'est ce langage d'ailleurs qui a été employé. Mmh. Et ce langage va faire l'objet de développements dans les films ultérieurs de manière très importante parce que ces langages sont encore à la base des nôtres. Mmh. Donc ça va être expliqué de manière illustrée grâce au talent de Patrice parce que moi, si je produis ce selon ma pensée, c'est tellement sec que voilà, c'est tellement éloigné, si je puis dire, du quotidien que voilà, je raisonne tout seul dans mon coin.
C'est
je
pour
me
ça qu'il faut, que voilà, c'est, le binôme fonctionne. Quoi.
Voilà, ouais. Et il me questionne et je lui dis jusqu'à ce qu'il ait saisi la chose. Tant qu'il ne l'a pas saisi, on n'avance pas sur le sujet.
Bah, je suis il très a raison, content, hein, parce que voilà,
c'est une méthode en effet, c'est une forme de didactique et ça, je suis très content d'avoir donc un binôme comme ça. Alors pour ceux que ça intéresserait, Patrice parlait tout à l'heure de Sébastien.
L'ermite,
exactement. Et Sébastien, il avait pris contact avec moi et je l'ai assuré de sa totale indépendance que je lui dirais là où il avait fait des erreurs selon mon point de vue, ouais, des erreurs, d'appréciation. Parce que, en fait, dans ce type mathématique, il y a plusieurs méthodologies d'approche, etc. On peut traiter ça par l'algèbre, par la géométrie, booléenne. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Simplement, c'est qu'on peut arriver sur des résultats statistiques et non de la perfection. Ouais. Et je suis obligé de parler de cela parce que c'est une des questions qui m'a le plus souvent été posée. C'est pourquoi, par exemple, tous les sites ne sont pas parfaitement sur la ligne. Ouais. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a 6. Pour ma part, j'en ai détecté 6. Mais la première, elle est évidente. Parce que lorsqu'on trouve un site qui convient à la disposition des grandes pyramides, c'est déjà énormément de chance. C'est un plateau calcaire, c'est-à-dire on peut travailler une masse de pierre, etc. Et la positionner. Mais quand on arrive sur une île aussi petite que l'île de Pâques, là, comment fait-on? Eh bien, le seul moyen, pour ceux qui aiment les maths et notamment la géométrie, c'est de s'exprimer à partir de données géométriques, mais pas nécessairement dans le décor immédiat. Mmh. On verra dans l'opus 2, que si on regarde cette fameuse île de Pâques, alors je vais faire un scoop, c'est pour Patrice.
Fais un peu de teasing pour le 2,
c'était
obligé.
Non, mais il va falloir le temps de le fabriquer, ouais, donc c'est quand même du teasing très
important. Je connais tellement bien cette île, du point de vue de sa constitution géométrique, tout ce bazar, que je l'ai appelé l'île de Jacques. C'est d'accord, à une lettre près. Voilà. J'ai une cheville qui vient d'enfler brusquement. Je ne vais pas pouvoir sortir du studio. Simplement, c'est que quelqu'un qui voudrait se pencher sur une île de cette dimension et de cette forme, il trouverait certainement très rapidement ce que j'ai trouvé. Maintenant, mon conseil, c'est ne balancez pas ça sur Internet, ça va être perverti, vous allez être attaqué pour des prunes, gardez-le pour vous et confrontez lorsque le film suivant, et vous aurez le plaisir de vous dire, j'avais trouvé, moi aussi, ce qu'il fallait trouver. Parce que cette île à elle toute seule, elle est minuscule, mais elle parle extraordinairement fort. Mmh.
Mmh. En tout cas, elle fait parler depuis longtemps. Hein.
Certes, mais c'est loin d'être épuisé.
Alors, il est 22h28, cet ado, c'est toute la vérité. Autre question qui a été posée et qui est souvent posée vers la minute 7:53. Vous dites qu'au moment de la construction des pyramides, les autres hommes sur Terre étaient vêtus de peau de bête. Or, cela n'est pas exact. En tout cas, c'est une question qui a été posée. C'est quelque chose qu'on nous a balancé.
Oui, ça, on nous l'a balancé à plusieurs reprises, de manière aussi vicieuse que possible pour certains. Et cela, j'aurais pu leur répondre en une phrase très bête. Je me suis abstenu parce que je voulais savoir ce que cet ennemi potentiel avait dans le ventre. Mmh. Et je me suis bien amusé parce que ce sont des gens qui disent qu'ils sont du CNRS. J'aimerais bien qu'ils apprennent à compter avant de dire des âneries. Bon, c'est pas un problème. Et même à penser.
Non, ou encore qu'ils le prouvent qu'ils sont du CNRS.
Voilà. Parce que ce sont uniquement des pseudonymes. Mmh. Bon, moi, j'ai paru à visage découvert parce que je voulais pas laisser Patrice dans la patinoire, etc., tout seul à se débrouiller. Voilà. Alors, très simple. Il est dit très clairement ceci. À l'époque de la construction des pyramides, la plupart des hommes sur la Terre se promenaient en peau de bête. Oui. Si ces gens-là avaient réfléchi quelques secondes, ils auraient entendu que c'est un langage rationaliste plein pot. On prend les géologues, ils nous disent, selon ce qu'on analyse de ce site de Gizeh, on pense, nous, raisonnablement, que ce site a été bâti il y a 10 à 12 000 ans. À cette époque, en effet, les anthropologues vous diraient, il y a 10 à 12 000 ans, la plupart des gens sur la Terre, donc on est dans les sciences dures.
D'accord.
C'est pas une science absolue, l'anthropologie, ça n'est pas une science absolue, la géologie, mais ça tient bien la route par rapport aux critiques d'insensés. Voilà. Je les appelle insensés parce que je ne les méprise pas. Notez. Je répète, si on m'attaque méchamment, je réponds méchamment. Et si on me dit des gentillesses, je réponds des gentillesses. Ouais. Voilà, le secret est là.
D'autres questions arrivent de toutes parts. Hein. C'est-à-dire que ça fait réagir énormément, hein, mon Elliot. Hein.
Oui, ça réagit énormément sur Facebook. Il y a beaucoup de questions et comme on en avait beaucoup aussi la part des auditeurs, on ne sait pas si on va pouvoir toutes les poser.
Voilà, on vous avait demandé de nous les balancer sur bob@adofm.fr. C'est ce que vous avez fait. Alors, pourquoi les sites sont-ils pour la plupart à côté de l'équateur penché et non exactement dessus?
Eh bien, les réponses sont simples pour les personnes réfléchies. Il est dit dans le film que la plupart des sites anciens sont alignés avec des étoiles importantes du ciel. Ce sont des points de repère permanents. Quand on connaît ce truc-là, on sait qu'à telle heure de la nuit, paf, on est dans telle période de l'année et à tel endroit de la Terre. Ce sont des réflexes, si je puis dire, de géométrie et sphérique. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on a affaire à des planètes qui sont en promenade permanente, comment on se débrouille? Eh bien, on suit la ligne que parcourent ces planètes. Donc, cette bande en question, que j'ai appelée l'équateur penché, ou le tapis rouge même, qu'on voit comme ça d'ailleurs dans le film, le tapis rouge des énigmes archéologiques, eh bien c'est la figuration, la simulée d'une autre couche à comprendre de la relation entre la Terre et l'espace. On nous désigne par tout moyen l'espace. Regardez Rapa Nui, c'est l'île de Pâques, elle s'appelait Mata Kittelani, c'est-à-dire des yeux regardant le ciel, c'est-à-dire un gérondif, c'est-à-dire ils n'arrêtent pas, ils font que cela. Eh bien, l'opposé polarisable de ces êtres de forme humaine, c'est une forme géométrique, donc opposée, et elle pointe vers le ciel, elle aussi.
Et en même temps, leur forme humaine, mais qui ne ressemble pas du tout à ce, que, à ce qu'ils étaient avant. Hein,
aux populations autochtones.
Voilà, aux autochtones,
c'est ça qui est trop facile.
Et
d'autre part, comme le dit Éric Gontier, on ne peut pas, même surtout parce que c'est du tuf volcanique avec des insertions de, d'autres pierres, on ne peut pas dater cela. Au mieux, ça, ça daterait des...
Alors, rappelle qui est Éric Gontier, pour ceux qui n'ont pas vu.
C'est le monsieur qui est géologue, qui fait les expertises pour nous. Et c'est un monsieur que je dois d'avoir connu à mon frère. Tiens, je le salue, Yves. Parce que Yves a des activités associatives comme moi, et dans une association de géologie. Et donc, il avait ce formateur-là, Éric. Et j'ai dit, Yves, tu peux me trouver quelqu'un dans ton entourage, parce qu'on a sollicité 6 géologues, et ils nous répondent, le CNRS va jamais accepté, non, ça nous intéresse pas, c'est des bêtises, et encore je fuis. Voilà. Et Eric, je lui ai dit, est-ce que tu peux faire qu'on se voit au musée du Louvre, j'aimerais te montrer des choses et tu verras si oui ou non tu viens dans l'aventure. D'accord. On lui a montré ce qu'on a montré dans le film, à savoir les fameux vases de pierre extrêmement durs. Et là, toute idée de rechercher là-dessus lui a été, fraîche, comme aurait dit Jean-Pierre Adam. Et d'un seul coup, il s'est dit, c'est vrai, là, il faut que je cherche quelque chose, c'est anormal.
À ce propos, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière et il me dit que le film est très bien reçu puisque lui, il est au musée de l'Homme. Il me dit que le film est très bien reçu, que des gens l'ont vu. Alors je lui ai dit, pour plaisanter, ça ricane pas trop dans ton dos là-bas. Il me dit non, pas du tout, on prend ça très au sérieux parce qu'on s'intéresse aux faits, à tous les faits qui sont à l'intérieur. Donc il y a aussi une chose, parce qu'on nous attaque souvent en disant vous êtes contre la science. On n'est absolument pas contre la science, on n'est même pas contre l'égyptologie.
Vous voulez la faire évoluer,
c'est tout. On est contre personne en fait.
Le dogmatisme. Moi j'attaque les dogmatismes parce que c'est eux qui empêchent d'évoluer. Le principe même de la discussion scientifique, c'est d'apporter non seulement des faits, ça c'est indispensable, mais également des arguments, une construction logique accessible et toutes ces choses-là. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, on le fait très doucement parce qu'évidemment on sera obligé à un moment ou à un autre de montrer des caractéristiques mathématiques qu'il faudra avoir assimilées au moins une à deux années avant. C'est d'ailleurs c'est pour ça que ça prend autant de temps. C'est qu'avant de comprendre ce que c'est que l'irrationnel dans le monde des nombres, un nombre premier, quelles sont ses propriétés, etc., avant de nuancer toutes ces choses-là, il faut les avoir un petit peu... côtoyer.
Assimiler.
Voilà. Assimiler, ce serait beaucoup, mais côtoyer.
Ouais, côtoyer. En tout cas, c'est la révélation des pyramides qui nous intéresse ce soir jusqu'à minuit. Vous êtes très nombreux et nombreuses à réagir sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité. Sur mon mail aussi, des questions arrivent. bob@adofm.fr, j'en vois beaucoup, on va pouvoir les regarder. Et puis, on va continuer à poser les questions que vous nous avez envoyées. Donc, petite pause, on remplit le frigidaire, on fait plaisir au petit écureuil et on revient dans un instant. C'est Ado, c'est toute la vérité.
Certains veulent déjà le faire taire.
Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Avec le cabinet Myriam. Cabinet myriamvoyance.fr.
Oui, nous sommes aujourd'hui le 17 décembre, jour J-4 avant la fin d'un monde. En tout cas, nous en parlerons vendredi de ce 21 décembre. Je vous offrirai une émission exceptionnelle afin de comprendre ce phénomène qui se cache véritablement derrière. Je vous promets de grosses révélations.
Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements,
tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
Jacques Grimaud, Patrice Poyard avec nous ce soir pour parler de ce film La Révélation des Pyramides. Un opus incroyable qui en amène 6 autres. Espérons très vite les voir. Je vous dis simplement ça. On va peut-être monter une opération afin qu'on puisse faire en sorte que les films arrivent plus vite que prévu. Je vous tiendrai au courant. On se parle beaucoup avec Patrice et Jacques, mais on doit avoir la vérité, en tout cas, la suite de cette aventure incroyable qui est La Révélation des Pyramides. Et mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, on vous permettra d'être partie prenante dans cette aventure. Voilà, ça c'est dit. Wow. En tout cas, il y a une question qui a été posée. C'est sur Facebook. Hein.
Oui, c'est sur le Facebook. Bob vous dit toute la vérité sur Ado.
Alors c'est... Vas-y. Parce que j'arrive pas à dire.
Les gens veulent savoir si les pyramides ont été construites par des djinns, un peuple qui aurait été créé par Satan et que les pharaons contrôlaient.
Alors ça, c'est une référence directe à un ouvrage qui s'appelle le Coran, qui en effet dit que les grandes pyramides étaient l'œuvre d'êtres intermédiaires entre la divinité négative. Enfin, il s'agit de Seth à l'origine, et le nom correspondant a été traduit un petit peu à la va-vite. Mais ça... Quant à la nature des individus qui ont réalisé ces grandes pyramides, je le garde pour un opus suivant. Mais je sais que cette question a très forte probabilité d'avoir été posée par un ou des musulmans. Je les salue parce qu'ils ont la charge énorme de s'occuper des grandes pyramides qui doivent rester accessibles aux gens de la terre entière, bien qui sûr. Veulent se faire une opinion sur pièce, hein, parce qu'il n'y a rien de plus important qu'à aller voir sur les sites eux-mêmes. Et donc je les félicite aussi pour l'intérêt particulier dont ils manifestent en permanence la présence. Donc je ne vais pas répondre à cette question, qui les a faites, mais simplement laisser entendre la réponse, pourquoi elles ont été faites. Ça viendra bien plus tard, il faut d'abord assimiler pourquoi, c'est-à-dire les buts d'abord, et ensuite identifier, parce qu'il y a un pont logique entre qui fait et pourquoi il le fait. Voilà, dans un de mes bouquins qui n'aura pas paru, je dis très clairement, il y a 4 questions fondamentales qui sont pourquoi d'abord, ensuite comment, quand, et en dernier, qui. Quand on en viendra là, je répondrai à cette question. Et je pense que les musulmans m'en sauront gré. Et je leur dis, protégez les grandes pyramides, s'il vous plaît. Vous avez cette charge. Merci.
Alors, autre question qui est arrivée sur Facebook, mais qu'on t'avait envoyée, que beaucoup se sont posées. C'était à propos de Edouard Leeds Calnin et de son château de corail. Oui. Et on se demande si ça a été fabriqué de la même façon.
Alors là encore, on n'a pas abordé dans ce film les problèmes de la construction, qui sont des problèmes liés à ce que je viens d'expliquer, savoir il faut d'abord percevoir clairement la pensée des gens qui ont constitué en quelque sorte ce projet invraisemblable, puisque premier essai, première réussite parfaite. Les gens qui n'ont peur de rien, puisqu'ils reproduisent ça en Chine, mais en pierre et anglaise, enfin, au Mexique, en moellon, enfin bon, rien ne leur fait peur. Et la manière dont Edouard Leeds Calnin s'y est pris, c'est une des possibilités, et j'éclairerai là-dessus dans un opus qui sera consacré pour l'essentiel quelles sont les technologies mises en œuvre. Et simplement, je dirais que ceux qui cherchent bien dans ce domaine trouveront relativement aisément, pourvu qu'ils ne suivent que leur propre chemin. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, Tesla !» Mais il ne faut pas regarder Tesla, il faut regarder comment sont faits ces projets, ceux qu'il a déposés comme brevets. Rien que cela, regarder, les méditer, faire des rapprochements, rien que cela, ça suffirait. Voilà. Mais encore faut-il être très attentif, très fin et surtout ne pas se presser dans les déductions.
Patrice, est-ce que ce premier film, qui en amène donc 6 autres, hein, je le disais, a changé ta vision des choses, toi? Est-ce que on parlait des dogmes tout à l'heure avec Jacques, est-ce que ça t'a changé ta vision des choses? Est-ce que tu t'es dit, mais c'est hallucinant qu'on m'a dit ça pendant des années, et puis tout d'un coup, j'apprends que finalement, il y a une autre option?
Oui, ça a changé beaucoup de choses. D'abord, j'ai plus aucune certitude aujourd'hui. Mmh. Et je vis bien avec ça. Mmh. Donc c'est pour ça que je comprends complètement les gens qui s'accrochent à leur certitude. Et la plupart du temps, ça résiste. Et quand on va au fond des choses, c'est parce que qu'est-ce qu'on met à la place.
Et puis surtout, c'est la peur. Hein, les gens s'accrochent à des choses qu'ils connaissent.
Mais,
la peur.
Mais c'est normal. Ouais. C'est normal. C'est comme si on disait à quelqu'un, tes parents, c'est pas tes parents. Mmh. Et à un moment, il faut.
Bon.
Donc, oui, ça a changé beaucoup de choses.
Jacques est un blagueur. Hein, voilà. Dès qu'il peut faire
c'est
une petite connerie,
vrai.
Il le fait.
Donc, c'est même pas.
Non, mais celle-là, ça va. Quoi. J'ai eu peur du sketch de la valise, mais ça va.
Référence au bronzé.
Donc, c'est voilà. Qui ce Bob
Évidemment, ça m'a fait relativiser beaucoup de choses. D'abord, ouais. De se balader sur la planète. J'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir le faire et d'aller visiter ces sites qui sont multimillénaires. Ouais. En tout cas pour l'Égypte, qui sont formidables, de voir tout ça, de voir ces réalisations, de voir ces endroits, ça fait voir du pays, ça fait voir d'autres cultures, d'autres peuples. Mmh. On a fait des rencontres humaines qui sont formidables, donc tout ça, ça vous change énormément.
Bien sûr.
Et ensuite, ça a changé mon point de vue parce que, voilà, comme je le dis, j'avais des, non pas des certitudes, mais des choses qui étaient très ancrées et j'ai été curieux, j'ai été un peu déstabilisé par le fait de bouleverser tout ça, mais je m'y suis adapté et donc, je suis un peu la preuve vivante qu'on peut le faire et qu'on peut bien vivre en n'ayant pas de réponse absolue à toutes les choses parce que c'est quand même un grand mystère qui nous entoure et surtout dans le passé et donc c'est un beau chemin et c'est ce que j'invite tout le monde à faire ça, à travailler, à réfléchir et surtout à réfléchir par soi-même, c'est-à-dire à prendre les faits. Je vois beaucoup de gens qui critiquent le film, mais dans leur critique je me rends compte qu'ils sont passés à côté de plein de choses, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent. Alors il y a plein de gens qui se sont arrêtés sur les peaux de bêtes, c'est-à-dire que à la 10e minute du film, ou en tout cas dans les 8 premières minutes, ils s'arrêtent là, puis après le reste ils mettent tout à la poubelle.
Pour te rejoindre, je l'ai vu 3 ou 4 fois le film, hein, et plus on regarde, plus on voit des choses, plus on entend des choses qu'on n'avait pas vues la première fois, la deuxième fois, la troisième fois.
C'est extrêmement dense et le texte a été ciselé. On a travaillé comme des dingues dessus pour ciseler ce texte au mot près, pour essayer d'être le plus précis possible. Mmh. Et d'ailleurs, la version anglaise qu'on a faite, parce qu'on a fait une version anglaise, qu'on l'a travaillée très étroitement, ça a été un énorme travail avec un traducteur, parce que c'est pas simplement un travail de traduction, c'est un travail d'adaptation aussi.
Bien sûr.
Et on s'est rendu compte assez paradoxalement, alors qu'on a coutume de dire que l'anglais est beaucoup plus rapide, que la version anglaise était aussi dense que la version française. Parce qu'on avait fait ce travail de synthèse dans les mots dans la version française et dans la version anglaise, on avait à peu près les mêmes temps. Et ça, c'est une chose... plus vous verrez... Enfin, on regarde et plus vous verrez des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. C'est comme un livre. Hein, quand on relit plusieurs fois un livre, qu'on laisse passer un an, deux ans, on y découvre une autre facette. Et c'est exactement la même chose là-dedans parce que c'est extrêmement dense.
Alors, parce que ça permet de d'opérer une vraie prise de conscience, c'est-à-dire de découvrir des perspectives qu'on n'aperçoit que parce qu'on a assimilé la première couche. Mm-hmm. On peut prendre la deuxième et ainsi de suite. Mm. Moi, je préconise 10 à 12 couches pour vraiment commencer à connaître le sujet et à ne pas dire des sottises. Ouais. J'invite vivement nos détracteurs à faire ce travail de base. Bon. Merci pour eux.
Alors, autre question posée par nos auditeurs. Connaissez-vous la théorie selon laquelle les pyramides suivent une implantation géométrique ultra précise sur la planète? Nous ne serions pas capables de refaire de nos jours avec autant de précision d'éléments que vous faites remonter dans votre reportage.
J'ai même pas compris la question.
Moi non plus. Mais bon, moi tu sais quoi, le seul qui l'a écrite c'est Elliot, donc c'est le plus intelligent d'entre nous.
Elliot, il est dans son petit panier du vélo
c'est
devant la lune.
C'est une question d'auditeur à la base.
Pose là parce que
à la base de quoi, à la base
elle a été envoyée sur le mail bob@adofm.fr. Et donc la question est, êtes-vous au courant qu'il y a une théorie selon laquelle les pyramides auraient une implantation géométrique qui soit précise sur la planète?
Ouais, il redit ce que je dis.
Et qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable de la refaire avec nos techniques actuelles.
Non, en fait, il parle, à mon avis, de cette chose qu'on a déjà entendue, les lignes telluriques, c'est-à-dire qu'elles seraient construites à certains emplacements avec une grille et qu'elles auraient une fonction.
Alors,
comme on dit des cathédrales ou des choses comme ça.
Comme j'ai dit tout à l'heure en répondant à la question qui mentionnait Anton Parks, en fait, ce sont des théories qui méritent d'être évidemment validées et il faut le faire. Mm-hmm. Ce n'est pas à nous de faire ça. Nous, on a une trajectoire parce que Patrice suit mes découvertes. et parce qu'il y a une logique dans l'exposé qui va être fait. Donc il n'y a pas de problème. Ceux qui voudraient s'attacher à la démonstration ou à l'affirmation de cette approche-là, qu'ils le fassent. J'ai fait des découvertes, je ne mélangerai pas ces choses-là à ces propositions, parce que si elles ne sont pas apportées méthodiquement et par une logique ferme, rigoureuse, elles risquent de nous échapper et de faire en quelque sorte la nourriture de tous nos détracteurs. Ça, c'est une chose que je ne veux pas mettre en œuvre contre moi-même et contre le vrai et l'important, parce que ça a quand même une grande importance, ces découvertes.
D'accord. Alors, petite pause musicale peut-être ce soir dans Toute la vérité, et puis la question que je vous poserai juste après, et celle-ci elle est facile à comprendre. Pourquoi ne pas avoir développé dans votre reportage la théorie des pierres moulées ou réagglomérées? On en parle dans une poignée de secondes. Mathieu, parole t'es donnée, qu'est-ce que tu nous annonces?
Allez, ben là, on va écouter Rihanna avec Diamond sur Radio 2 dans Toute la vérité jusqu'à minuit sur la révélation des pyramides.
Tous les soirs sur Ado, tout ce que l'on nous cache depuis toujours, enfin révélé.
21h30, Bob vous dit toute la vérité.
Voilà donc quelque chose qu'on nous cache depuis toujours, en tout cas qu'on nous dissimule peut-être, on nous annonce une couleur et peut-être que finalement c'est pas cette couleur, celle des pyramides, la révélation des pyramides. Jacques Grimaud, Patrice Poyard ce soir, pour en savoir plus. Vous étiez déjà venu le 19 novembre dernier, ça a fait beaucoup réagir, on s'est dit on va monter une deuxième émission pour essayer de pousser un peu le bouchon un peu plus loin. La question que je vous ai posée juste avant la pause, c'est Patrice qui va y répondre. Pourquoi ne pas avoir développé dans votre reportage la théorie des pierres moulées ou réagglomérées?
Alors d'abord, la théorie des pierres réagglomérées, ça concerne le comment, et nous on s'est intéressé à la question du pourquoi dans le film. Mais à la base, pour être on avait fait un tour d'horizon sur toutes les théories de construction, parce que le film était en 3x52 minutes, et j'ai coupé 52 minutes de film pour faire 2x52 minutes, et ensuite un film qui fait 107 minutes. Voilà. Donc quand j'ai coupé, il a fallu sortir beaucoup de choses. C'est avec regret que j'ai pas abordé les pierres réagglomérées, parce que le pauvre professeur Davidovits, qui se bat depuis 25 ans avec son travail, qui est remarquable. Et pour tout dire, on a amené un géologue là-bas qui n'adhérait pas du tout à cette chose-là, qui souriait au départ. Et quand on l'a amené là-bas, il a été convaincu par les techniques, parce qu'il arrive même, quand on fait des analyses, il arrive même à tromper les instituts qui font des analyses sur la pierre. Ils fabriquent ces pierres réagglomérées, ils les donnent aux instituts, et on dit ah ben c'est un calcaire qui date de telle époque, etc. Et ils trompent tout le monde. Et en plus, c'est une technique extrêmement simple. Sur place, on a constaté avec Jacques qu'il y avait de la réagglomération de pierres. Alors, il n'y en a pas partout. Le professeur Davidovits dit par exemple qu'il n'est pas capable, lui, de refaire du granit. Alors après, il faudrait qu'on rentre dans des considérations techniques.
Mais surtout à l'époque.
C'est pas une question d'époque, c'est que le granit, c'est un matériau qui est cuit dans le sol, qui est fait avec sous des très fortes pressions et des très hautes températures. Donc c'est quelque chose qui est cuit. Contrairement au calcaire, c'est déposé c'est de la poussière qui se dépose et qui s'agglomère. Donc c'est différent. On peut réussir. Peut-être que Jacques, tu as envie d'apporter une précision là-dessus.
Oui, chimiquement, comment dire, le calcaire, ce sont des carbonates. C'est-à-dire, ça a une réaction à l'eau, alors que le granit, on balance de l'eau. Rien.
Enfin,
voilà. Et surtout, il y en a une, c'est une roche métamorphique, c'est-à-dire d'origine du centre de la Terre, ou à peu près, et l'autre, c'est un dépôt à la surface.
D'accord.
Donc ce sont des choses qui sont à remarquer. Comme je le dis à certaines personnes qui me questionnent sur notre page Facebook, moi je pense à Face et à Book et ça me perturbe. Et donc, il y a une polarité, par exemple, dans la Grande Pyramide. L'une des premières choses qui m'avait frappé, c'est ce contraste justement entre le calcaire et l'utilisation du granit, pierre qu'on pourrait mettre en opposition radicale si on faisait une échelle, voilà. Et les propriétés ne sont pas du tout les mêmes.
Autre chose, moi, qui me perturbe à chaque fois, c'est quand plus je regarde le film, plus je me dis, mais pourquoi autant de gens qui, comme vous, se posent les mêmes questions? Il y a beaucoup d'architectes, de grandes maisons en plus, qui ont fait de grands travaux, on parlait du viaduc de Millau, etc., qui à un moment donné se disent, mais moi, je sais pas faire. Et là, c'est là où c'est complètement fou pour le spectateur que je suis. Je regarde ça, je me dis, bon, il y a des mecs dont c'est les métiers. Il y a des mecs qui sont professionnels, qui ont fait des ouvrages incroyables dans le monde, qui te disent, aujourd'hui, moi, avec ce que j'ai appris à l'école, avec les matériaux qu'on me donne, avec le matériel qu'on me donne, je ne sais pas faire. Et malgré tout, il y a tout un dogme qui veut pas essayer de se dire, mais putain, mais essayons d'aller un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Ça, je comprends pas.
Ça c'est effectivement délicat parce qu'en fait cette pyramide elle défie la raison quand on la regarde, la logique. C'est-à-dire que c'est immensément grand et à l'intérieur c'est un tout petit couloir qui fait 1 mètre sur 1 mètre qui débouche dans une salle gigantesque. Enfin ça a l'air d'être totalement inutile et puis en même temps on y perçoit quand même une forme de perfection à l'intérieur et une logique qui a l'air de nous échapper. Mmh. Et donc déjà c'est pas du tout dans les considérations actuelles de construction parce que c'est pas ce qu'on fait. Comme je dis, on n'emploierait pas une telle surface pour faire quelque chose qui a pas plus d'utilité que ça. Enfin c'est donc tout ce qu'on construit, ça a une utilité, une rentabilité même.
Bien sûr.
Or là il y a pas vraiment de rentabilité au sens où on l'entend à notre époque. Et après derrière c'est des matériaux qu'on utilise plus beaucoup, c'est-à-dire travailler avec du calcaire ou avec du granit, on fait pas ça, on fait des bétons, mais pour prendre des bétons c'est plus facile. Et d'ailleurs c'est pour ça que l'hypothèse des pierres réagglomérées est intéressante, parce que pourquoi pas des bétons naturels, c'est un béton calcaire utilisé et on peut le voir d'ailleurs, juste pour finir là-dessus parce qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, il serait extrêmement simple de démontrer une bonne fois pour toutes si les pierres ont été réagglomérées ou non. Alors c'est pas toutes les pierres, hein, parce qu'il y en a qui sont taillées, ça c'est certain, et il y en a qui semblent être réagglomérées parce qu'elles épousent parfaitement la forme, mais c'est des formes.
C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une, on voit des fois il y a des pierres qui sont un peu en demi-lune et la pierre du dessus en fait épouse parfaitement.
Des fois c'est même pire que ça. Des fois c'est même carrément un trou. Il y a une bosse sur la pierre c'est surtout sur les pierres de dallage qui sont au sol. Ouais. Et donc on a la roche, le calcaire qui a été sculpté. Et il y a une pierre qui vient s'ajuster dessus et il y a un trou dans cette roche calcaire. Et à l'endroit où le dallage est démonté, on voit que la pierre qui vient en regard, elle a une bosse qui correspond au trou. Donc là on se dit c'est pas possible. À un moment soit le type qui sculpte, il va pas faire un creux pour faire une bosse de l'autre côté. Et c'est vrai que l'idée de poser une espèce de pâte calcaire, comme le fait le professeur Davidovits, qui vient épouser cette forme, ça règle tout de suite le problème. Donc on pourrait, et j'espère qu'on pourra le faire, il suffirait de faire des analyses, parce qu'il y a des choses très très simples qui permettent de déterminer très facilement si telle ou telle pierre est réagglomérée ou non. Et ça n'a pas été autorisé jusqu'à maintenant.
Alors il y a un truc qui est indéniable quand on regarde le film, il y a ces fameux petits dessins qu'on vous montre à chaque fois quand vous parlez de la construction et comment, donc avec le petit maillet, la petite boule, donc on aurait fait. Et puis on l'avait pas trop abordé la dernière fois qu'on faisait qui est venu, c'est ces fameuses encoches dans les pierres, comme s'il y avait eu des scies circulaires qui avaient fait des trucs super nets en fait dans la roche comme ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment des trucs au laser ou des trucs hyper avec des matériaux incroyables pour arriver à faire des saignées comme ça dans le dans la roche.
Juste dire un mot, c'est que je suis allé visiter des sociétés qui découpent du granit, dont une des plus grosses sociétés qui découpe le granit en France et
en
qui
Bretagne.
Travaille qui est en Bretagne, qui travaille avec des énormes scies qui sont avec des particules de diamant.
Mais c'est ça, il faut du diamant, des choses comme ça.
Mais ce que ça découpe là, ça découpe avec une perfection, c'est-à-dire que c'est totalement lisse et plat. Or ce qu'on observe sur place, que ce soit en Égypte, au Pérou ou à l'île de Pâques, c'est pas ça. On n'a pas du tout l'impression qu'on a utilisé une grosse scie qui aurait découpé bien droit, puisque la plupart du temps ce sont soit des courbes, soit des angles, soit des surfaces qui sont vrillées et qui se répondent. Donc moi c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal à me prononcer, et j'avais dit d'ailleurs dans la dernière émission que Christopher Dunn, qui a étudié les statues de Louxor et la symétrie des statues de Louxor, s'est rendu compte que la surface de ces pierres-là était granuleuse. Et il n'arrive pas à comprendre comment on peut atteindre une telle symétrie avec une surface granuleuse, alors que normalement, si c'était fait par abrasion, ça devrait être lisse. Ouais. Donc là, moi, je peux pas me prononcer.
À côté de ça, dans le film aussi, on voit que les gaines les gaines de travaux, c'est-à-dire où les gens passaient pour faire les trucs. Il y a comme si ça avait été en fait foré avec une machine. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi. Enfin, moi, je me pose la question. Je vois cette gaine et il y a des dents. Enfin, il y a des stries de parfait. On a la sensation que ça a été foré, quoi.
Même pire, on a l'impression. On a l'impression que c'est une impression. Hein. Donc alors c'est simplement, moi je regarde et je donne ça, je suis réalisateur, voilà, je vois des choses, je donne mon impression. On a l'impression l'impression que c'était un matériau tendre, alors que c'est du granit, et qu'on l'a découpé avec une énorme... C'est comme si on prend un morceau d'argile et avec une petite cuillère, et qu'on s'amuse à découper quelque chose. On a cette impression-là qui est... Alors, il y en a qui vont vouloir m'étriper. Je suis pas scientifique. Moi, je constate et je regarde. Et c'est vraiment... Il y a vraiment un paradoxe. Il y a vraiment un paradoxe là-dedans, dans ces découpes. Sur la chaussée de ce qui est dit de basalte, alors en fait, c'est pas du basalte, c'est de l'amphibolite. Ça a l'air de rien, mais c'est un détail que je donne, mais c'est pour montrer que quand les géologues viennent, ils identifient clairement les pierres. Cette chaussée, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est de dire, mais comment vous pouvez être sûr que ça n'a pas été fait il y a 40 ans ou il y a 30 ans? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont essayé de démonter les pierres, de les découper, etc. Ces constatations ont été reportées, tout comme les trous de granit, dans des ouvrages qui ont plus de 100 ans, et des ouvrages qui ont présenté tout ça, même sur la mission...
Alors, dans le livre qui n'aura toujours pas le plaisir de paraître cette fin d'année, du fait de la présence d'un gollum, je donne des textes datés de 1880-1890 qui sont de Matthias Flinders Petrie, qui est le premier archéologue, égyptologue à caractère scientifique, et lui, il donne littéralement son sentiment de scientifique, et il arrive à une impossibilité matérielle de faire des choses aussi précises et aussi extrêmes. Il donne des exemples, il dit on a du silex, c'est-à-dire c'est une variété de verre, le silex. Ouais. Pour techniquement parlant, c'est extrêmement difficile à travailler. Et il dit c'est taillé avec une finesse que l'on croirait voir la surface d'une pièce. Ouais. Et le problème, c'est qu'entre les caractères, parce qu'il y a en plus des hiéroglyphes à proprement parler, il y a des caractères, et l'espace entre les caractères est tellement fin qu'on se demande avec quel matériau on peut faire un truc pareil. Mmh. Et il dit... il y a un seul matériau sur la Terre qui serait assez dur pour faire cela, c'est le diamant. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas du tout en Égypte. Donc, ça, il pose de vrais problèmes. En ce qui concerne
Il en fallait un paquet, hein, j'imagine.
Pas seulement, c'est qu'il montre que dans des couloirs qui ont 60 cm de large, une paroi granitique a été littéralement sculptée. Mais il dit, on voit des traces d'outils et... Si on analyse, on voit que la pierre a été percée à raison de 1 pouce tous les 6 tours. Mmh. Et que pour réaliser cela, il faut entre 3 tonnes et 3 tonnes 800 de pression dans un couloir de 60 cm de large.
1 pouce en centimètres.
Voilà, c'est 2,54 cm. Ouais. Donc, on ne voit pas technologiquement. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que Christopher Dunn, qui est un type extrêmement pointu du point de vue de la technologie, dont le métier absolu, c'est la précision, il a évoqué des modalités de sculpture totalement délirante. Il dit il faut avoir des scies pour faire les trous qu'on voit, il faut avoir des scies de 4 à 5 mètres de diamètre.
C'est ça qui est fou.
Et ben voilà, il faut avoir des marteaux à percussion et de cet ordre-là, ou à ultrason. C'est-à-dire que là, si on est objectif au vu des choses, on est obligé d'admettre que ceux qui pensent extraterrestres ont une légitimité à le faire, parce qu'on est totalement sec là-dessus. Ouais. On n'a aucune idée. Non.
Ça, c'est beaucoup de théories.
Mettrai à un moment ou à l'autre sur Internet.
Beaucoup de gens qui nous disent les Égyptiens, en tout cas ceux qui ont construit les pyramides.
Jamais parlé d'Égyptiens dans ce film.
Non, mais voilà. Moi, je te dis ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'ils ont été aidés par des forces extraterrestres. Eux, en tout cas, c'est la conviction de beaucoup de gens. Donc, après, quand tu me parles d'extraterrestres, en tout cas, eux pouvaient peut-être être là avec des moyens que les terriens, en tout cas, de l'époque, ils n'avaient pas.
Est-ce que je peux faire une petite chose sur ces extraterrestres, là? Parce que c'est vrai que tout le monde dit...
On en parle beaucoup.
Tout le monde dit, oui, les extraterrestres, on voit bien où ils veulent nous amener, c'est les extraterrestres. D'ailleurs, je vois bien que les gens, quand ils regardent le film, ils serrent les fesses au début en disant, ils vont nous parler d'extraterrestres. Ouais. Et quand ils ont vu la fin, ils se disent, je vais revoir le film cette fois, en étant plus détendu et en essayant de mieux le comprendre. Parce qu'ils savent où on va. Si on parle d'une civilisation qui a existé, et d'une civilisation qui serait allée extrêmement loin dans sa maîtrise de la technologie, etc. Si cette civilisation, là je précise qu'on est au conditionnel, si cette civilisation n'avait pas disparu totalement, c'est-à-dire que si une partie des gens avait pu quitter la planète, alors je sais que je demande aux gens de d'imaginer, moi j'ai suffisamment de recul maintenant sur les choses pour me dire après tout pourquoi pas, c'est ce qui pourrait nous arriver. Il y a 150 ans on avait les machines à vapeur et aujourd'hui on a les nanotechnologies, donc si on se débrouille bien dans 50, 100 ans, on sera capable de résoudre le problème des voyages interplanétaires, à ce moment-là, on pourrait tout aussi bien imaginer qu'ils seraient considérés, s'il y avait eu un cataclysme, ces gens-là, avec la technique, seraient considérés comme des extraterrestres, avec la technologie, etc., pour des gens qui seraient revenus à une espèce d'âge de pierre, parce qu'ils arriveraient avec des techniques, et donc... C'est pour ça qu'on peut pas dire c'est ceci, c'est cela, etc. Ouais. Alors il y a des gens qui essayent de nous entraîner là-dedans en disant oui, mais on sait bien où vous nous amenez, etc. Non, il faut revoir cette notion-là et puis surtout il faut l'aborder avec beaucoup de recul.
Ouais.
Moi je suis pas, j'ai pas vu d'OVNI et je suis pas un adepte des extraterrestres, mais tant que personne ne sera allé visiter la totalité de l'univers et toutes les planètes en revenant en disant écoutez, on a tout fait, il y a rien, je vous dirais c'est peut-être possible qu'il y en ait ailleurs, quoi. Donc pourquoi ils seraient pas venus ici, et voilà, on reste d'accord. Ouvert là-dessus.
Alors on continue à parler du côté de la fabrication des matériaux, etc., enfin du matériel. Il y a une question: pourriez-vous apporter des précisions sur les méthodes de conception des bijoux, objets en or, etc.? Est-ce que c'était possible à l'époque, en tout cas, voilà.
Je vois venir la question. C'est-à-dire, en effet, on a découvert des objets métalliques qui étaient rendus littéralement éternels par la présence d'une couche d'or. Et la couche d'or est tellement fine qu'on ne peut supposer qu'une action électrochimique, c'est-à-dire un dépôt de tout cela, tranquille, etc., ce qui suppose des piles au minimum. Mmh. Actuellement, on n'a pas besoin de se casser trop la tête pour faire une pile d'un volt 5. On prend une pomme de terre, un fruit, et c'est son acidité, le différentiel électrique qui va créer ce courant-là. Et on peut, grâce à l'électrolyse, faire un dépôt, mais on va peut-être mettre 6 mois là où on le fait en 6 heures en laboratoire. Moi, personnellement, je pense qu'il y a eu la connaissance de l'électricité. Elle était témoignée à toutes les époques, soyons clairs. Si quelqu'un veut discuter avec moi, eh ben je l'emmène, mais j'en ferai état dans les films prochains. Mmh. Si on a bien suivi mon propos, c'est que je ne donne les choses que dans le prolongement logique de ces choses-là.
D'accord.
À un moment donné, Patrice sera obligé d'aborder certains problèmes dont il connaîtra l'existence factuelle en se disant, mais comment on fait ça? Là, il va me questionner, je mettrai à sa disposition les éléments qui vont lui permettre d'avoir un raisonnement solide, bien étayé par des faits scientifiques connus, en principe des scientifiques eux-mêmes. Et puis au terme, il va se dire, bon, je veux bien admettre ça, voilà, c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent.
Parce qu'il y a quand même un truc qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas retrouvé de traces de suie aussi profond que vous êtes allé, hein, quand même. Donc ça veut dire qu'il fallait bien qu'il s'éclaire.
Oui, mais on peut supposer que des gens aient nettoyé les
murailles. Oui, mais on en retrouve toujours.
Je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Des gens qui ont fabriqué cette chose-là. J'explique. Si quelqu'un est chimiste, et chimiste qui est habitué à traiter de la chimie des sels, il va s'apercevoir que la Grande Pyramide fabrique des sels et se recouvre en permanence d'un dépôt salin.
D'accord.
Qui à lui seul peut faire écran à la vision de la suie qui s'était déposée.
Qui est une particularité de la pierre réagglomérée de David Hicks.
Exactement.
D'accord.
En fait, il y a plusieurs raisons pour cela, parce que le site même des grandes pyramides, en dessous, il y a de l'eau. Hein.
D'accord, ouais, bien
et
sûr.
L'eau, elle passe son temps par évaporation à remonter, et donc ça aide à cela. Et ça, c'est un avantage certain, c'est que lorsque le dépôt salin a été concrété à la surface des pierres, notamment du calcaire, il est quasiment indestructible,
D'accord.
Tu peux arriver, tu tapes dessus, il n'y a rien qui se fait parce que c'est un dépôt extrêmement dur.
Vous voyez que tout est fouillé, hein, c'est la révélation des pyramides ce soir. Petite pause musicale et la question que je vous poserai, c'est pouvez-vous nous parler de Jean-Pierre Houdin et de sa théorie de la rampe interne? On verra cela dans un instant. Jacques ou Patrice, vous répondrez en tout cas à Ado, toute la vérité ce soir. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute?
On va écouter Drake avec Find Your Love sur Ado, dans toute la vérité jusqu'à minuit.
Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado.